Alors, on va se tourner toujours dans l'étude de la parole. Vous savez que nous sommes, enfin pour ceux qui sont réguliers dans cette assemblée, nous sommes dans l'étude suivie de 1 Corinthiens, première lettre de Paul aux Corinthiens. On est au chapitre 9. Donc Andou nous a partagé la parole de Dieu la semaine dernière. C'était dans les premiers versets du chapitre de 1 à 18. Et là, on va lire les versets suivants. Dans le passage que Andou avait prêché, donc Paul était obligé de défendre son apostolat, si vous vous rappelez. Obligé de se défendre, certains lui reprochaient de ne pas vraiment être apôtre. Il fallait quand même être culotté. Et puis ensuite, il y en a d'autres qui lui reprochaient de, soi-disant, de vivre aux dépens des frères et sœurs. Il fallait être culotté aussi. Mais ils l'ont fait. Donc voilà, l'apôtre se défendait la semaine dernière. On va lire les versets suivants, qui sont les versets, donc 1 Corinthiens chapitre 9, versets 19 à 23. Et je vais te demander, Timothée, si tu veux bien, il y a un visuel. Comme il n'y a pas beaucoup de versets, je les ai tous mis sur une image. Comme ça, on les aura bien sous les yeux. Ça nous permettra d'avoir bien les garder parce qu'ils sont un petit peu, ils sont pas complexes, mais la formulation des idées peut faire que si on les lit les uns après les autres, on va peut-être se perdre un peu. C'est peut-être plus simple de les avoir comme ça. On va prier auparavant. Seigneur, c'est avec respect, humilité, soumission que nous nous présentons devant ta parole. Respect parce qu'elle est ta parole, Seigneur. Humilité parce que nous ne sommes rien devant toi. Et Seigneur, nous voulons te laisser parler. Seigneur, vraiment, que tu parles à nos cœurs, que ce soit ta parole, Seigneur, qui nous interpelle, qui nous reprenne, qui nous exhorte, qui nous édifie, Seigneur. Que ce soit toi qui nous parles en ce matin, parce que ta parole est vivante, Seigneur, et c'est toi que nous voulons écouter. En ton nom. Amen. Alors, lisons ces versets. Donc, Paul dit aux Corinthiens, en effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi, bien que n'étant pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme si j'étais sans la loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été comme faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'avoir part à cette bénédiction. Si on lit ce passage rapidement, plein d'idées, ça chevauche un petit peu. Donc on va les reprendre tranquillement les uns après les autres et on va voir la construction, la pensée de l'apôtre. Dans ce passage, il y a quatre publics, entre guillemets, quatre types de personnes. Verset 20, qu'est-ce qu'on voit ? Les Juifs. Premièrement, les Juifs. Et toujours dans le même verset, il y a ceux qui sont sous la loi de Moïse. Alors c'est pas forcément des Juifs. À cette époque, il y avait des personnes qui pouvaient se placer sous la loi sans être juifs. Et aujourd'hui encore, il y a des gens qui peuvent être... il y a certaines sectes comme les Mormons ou les Adventistes qui sont vraiment dans l'Ancien Testament, ils sont vraiment sous la loi de Moïse, ils ne sont pas vraiment sous la grâce, ils sont encore sous la loi. Et parmi les chrétiens aussi, les amis, vous ne trompez pas, il y en a, ils sont tellement légalistes qu'ils sont encore sous l'Ancien Testament. Ils sont encore sous la loi. Jésus a dit « Vous êtes maintenant sous la grâce ». Mais ils restent encore sous la loi avec tout un cadre assez rigide, ils sont très légalistes, donc il y a aussi ces personnes-là. Hein. Paul a dit, on l'avait vu il y a 3 semaines ou 1 mois, tout m'est permis, voilà. Mais tout n'édifie pas, mais tout m'est permis, sous la grâce tout est permis, mais tout n'édifie pas, donc il faut aussi choisir ce que l'on fait. Donc, les Juifs, ceux qui sont sous la loi de Moïse, verset 21, ceux qui sont sans la loi. Alors certains diront sans foi ni loi, ça veut ni Dieu ni maître, ni ce que vous voulez. Ceux qui sont sans la loi. Et puis le 22, ceux qui sont faibles. Alors qu'est-ce qu'il nous dit quelle est la méthode de l'apôtre Paul là? Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, regardez, avec les Juifs, j'ai été comme un Juif. Avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi. 21, avec ceux qui sont sans la loi, ben, j'ai fait comme si j'étais sans la loi. Et avec ceux qui sont faibles, j'ai été comme faible avec les faibles. Et pourquoi il fait ça? Dans quel but, à votre avis? Ben, c'est dans le verset, voilà. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif. Pourquoi? Afin de gagner les Juifs. avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, j'ai fait comme si j'étais sous la loi. Pourquoi ? Afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, j'ai fait comme si j'étais sans la loi. Afin de gagner ceux qui sont sans la loi. Et enfin, j'ai été comme faible avec les faibles. Un objectif, afin de gagner les faibles. C'est la méthode de Paul. Alors c'est celle qui devrait être la nôtre aussi pour toucher les cœurs à Christ. Hein. La méthode est simple, hein. Elle est bien détaillée ici, elle est très claire. Et on a effectivement les quatre types de personnes qu'on peut côtoyer aujourd'hui, des juifs. Il y en a beaucoup à Nice, hein, pour les amis de Suisse. Il y a une petite synagogue ici, c'est plutôt un centre de rencontre. Il y a une grande synagogue derrière. On a un quartier des musiciens qui a 500 mètres, hein, qui est vraiment un quartier juif. Il y en a beaucoup à Nice, c'est une grande communauté. Donc vous allez en croiser dans votre entourage, dans les commerces, dans votre travail, vous croiserez beaucoup de juifs à Nice. Il y a aussi des personnes sous la loi, des légalistes, hein, parfois, même parmi les chrétiens. Des personnes qui sont sans la loi, alors là, vous allez en croiser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et des personnes faibles, alors des personnes faibles dans la chair, mais aussi des personnes faibles dans la foi. Et vous, là, vous allez en croiser aussi beaucoup. Si vous faites de l'évangélisation, vous savez bien que c'est la grande, grande majorité de ceux que vous allez côtoyer. Alors, quelle était la méthode de Paul ? C'est très simple, être comme eux, tout simplement. Mais attention, il y a une petite subtilité. Être comme eux, ça ne veut pas dire faire comme eux. C'est très différent. L'apôtre, il dit, j'ai été comme eux, j'ai été. Il n'a pas dit, j'ai fait comme eux, ce qui est très différent. Paul ne dit pas ici que si vous êtes chrétien, vous allez devoir aller dans les bars, les discothèques, fumer, boire de l'alcool, prendre de la drogue et tout pour faire comme eux, quoi, pour pouvoir les toucher. Il ne dit pas ça, il dit, j'ai été comme eux. Mais il ne dit pas, j'ai fait comme eux. Ça veut dire quoi, être comme eux ? Ben, ça veut dire tout simplement comprendre et adopter les codes de ces personnes, avoir un peu la vie comme eux, être au même niveau qu'eux, se mettre au même niveau, pas être sur le piédestal ou être complètement différent. Vous faites du sport, vous écoutez de la musique, vous allez au cinéma, vous allez au restaurant ou pas, ou vous vous promenez, enfin vous avez les mêmes types d'activités, simplement. Vous adoptez leurs codes, vous les comprenez, afin de pouvoir les aborder, partager votre foi. Mais ça ne veut pas dire partager leurs péchés. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller se rouler dans la boue comme eux. La méthode de Paul, c'est ce qu'il enseigne aux Corinthiens. Et d'où est-ce qu'il tirait cette méthode-là, sa façon de faire, à votre avis ? Bah, comme pour cela, comme pour toute autre chose, il avait un modèle. C'est ce qu'il dirait un petit peu plus loin dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1. Timothée, si tu veux bien, il va développer sa pensée, il va le dire un petit peu plus tard au même public, aux Corinthiens. Soyez mes imitateurs, dit l'apôtre, faites comme moi. Pourquoi ? Bah, comme je le suis moi-même de Christ. Son modèle, c'est Jésus. Et on a vu, on voit depuis le début de la lettre que tout ce que Paul fait, tout ce qu'il supporte, la tribulation, l'humiliation, toute sa façon de répondre, d'être, de les aimer, de rétorquer, etc., il s'inspire toujours de Jésus-Christ. Et là, dans sa méthode, il fait pareil que le Seigneur. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Des fois, quand on lit un peu Paul, on se dit, Paul, il est un peu orgueilleux quand même. Parce que des fois, on se dit, faites tout comme moi, ça fait un peu... Ben non, c'est très simple, c'est très humble en fait. Il dit, moi j'ai tout pris de Christ, j'ai rien pour moi-même. Hein. Mon modèle c'est Jésus, j'essaie d'appliquer, donc faites comme moi, parce que vous n'avez pas vu le Seigneur, moi je l'ai vu. Faites comme moi, et vous serez vraiment des chrétiens. Il n'y a aucune arrogance là-dedans, au contraire, c'est d'humilité de sa part. Hein. Donc la méthode de Paul, c'est la méthode de Christ. Donc on va regarder comment Jésus se comportait avec ces quatre types de personnes. Déjà avec les Juifs. Alors, il en a côtoyé beaucoup, Jésus, évidemment, c'était ses contemporains, c'était son peuple. Hein. Dans Matthieu 17, il y a un passage qu'on peut regarder. Matthieu 17, versets 24 à 26. Il y aurait plein d'exemples comment Jésus s'est comporté avec les Juifs. Il y en aurait plein, on va en prendre un seul, qui est assez parlant. Dans cet épisode, Jésus va se retrouver confronté à un devoir, une obligation de Juif. Il va devoir payer ses impôts. Alors, ce n'est pas que pour les Juifs, les amis, vous le savez. César est mort, mais pas la philosophie de César, parce qu'il faut encore payer des impôts. Eh oui, on est au mois de septembre, souvent on se rappelle en rentrant de vacances. Nous aussi, on doit payer nos impôts. Alors, on va regarder comment Jésus a géré ce cas. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les deux drachmes, alors les deux drachmes, c'était un impôt pour l'entretien du temple à l'époque, hein. Donc il y a ceux qui doivent, les percepteurs, là, ils s'adressent à Pierre et ils lui disent « Votre maître ne paie-t-il pas les deux drachmes ?» Mais si, là, Jésus, il paye pas. Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, « Que t'en semble, Simon, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers ?» Pierre lui dit, « Des étrangers ?» Jésus lui répondit, « Bon, les fils s'en sont donc acceptés. » Verset suivant. « Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. » Lui ouvre la bouche, tu trouveras un statère, une pièce. Ça devait être l'équivalent des deux dragues. Moi, je ne suis pas spécialiste en conversion, mais ben, ça doit couvrir. Prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi. Et Pierre, il s'est peut-être un peu avancé là. Les deux, ils arrivent en disant votre maître, là, il ne paye pas l'impôt? Il dit si, si, bien sûr. À mon avis, il n'en sait rien du tout. Hein. Alors, Jésus, il arrive, il est omniscient, il sait tout à l'avance, il arrive, il prévient, hein, il dit Pierre. Pour la question des impôts, là, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. À ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Le Seigneur savait toute chose à la jambe, même ce qui est caché dans votre cœur, le Seigneur, il le sait bien. Il va régler le problème tout seul. Alors, il pose la question, cet impôt-là, qu'est-ce qu'il doit le payer? Les étrangers ou... Alors, Pierre dit, bah, les étrangers, hein. Bon, Jésus était fils de Dieu, donc, exempt de payer l'impôt, ce serait logique. Mais il ne veut pas les choquer. Alors, pour ne pas les choquer, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va payer la somme et pas faire d'histoire. Cette réponse, c'est à mettre en parallèle, en fait, avec le verset qu'on a vu avec Paul, avec les Juifs. J'étais comme les Juifs. Je suis juif, je paye l'impôt et je choque personne. Jésus ne voulait pas être une occasion de chute. S'il n'avait pas payé, il y aurait eu certainement tout un scandale. Les gens qui auraient dit « Oui, pourquoi ?» blabla, etc. Ça aurait fait des histoires pour rien. Alors parfois, il vaut mieux faire des concessions. Il a payé l'impôt, pas d'histoire, problème réglé. Et on va pouvoir enseigner et partager la parole de Dieu, c'était bien à l'essentiel. Paul, il s'est retrouvé un peu dans une situation où il a dû faire des compromis aussi. Regardez dans 1 Corinthiens, dans Actes 16, verset 3, par rapport à Timothée. Il y a toujours un problème avec les Juifs, là encore. Et Paul, il va devoir faire une concession. Bon, Christ a fait une concession, il a payé l'impôt, c'était pas là. C'était pour régler le problème, ne pas être une occasion de chute. Et là, ça parle de Timothée, et on voit que Paul voulut l'emmener avec lui. Et l'ayant pris, il le circoncit, à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Donc il a dû circoncire Timothée, pour ne pas faire d'histoire, parce que sinon on aurait dit, Timothée, il n'était pas circoncis. Et ce n'était pas le moment, quoi. Les gens n'étaient pas encore touchés par la parole de Dieu, donc ça aurait été une occasion de chute, on serait parti dans un débat interminable de circoncision ou pas, loi ou pas. Donc Paul, pour ne pas faire d'histoire, il le circoncit et on y va. Ce n'est pas grave. Tout m'est permis. Tout ne me convient pas, tout n'est pas utile, etc. Mais dans ce cas-là, il fera une concession. L'exemple de l'apôtre ici de Paul, c'est de ne pas être une occasion de chute. Voilà, s'il faut parfois faire des sacrifices, il faut le faire. C'est ce qu'il a dit aussi par rapport, vous vous rappelez, au thème des viandes sacrifiées aux idoles, on avait vu il y a 15 jours. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 13. C'est là ce passage où Paul disait « Tout m'est permis, mais tout ne me convient pas, tout ne m'est pas utile. » Mais bon, il dira « Bon, c'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. » Voilà. Si je dois être une occasion de chute, si il va faire un blocage, il ne va pas écouter le reste de la parole parce que je mange de la viande devant lui, ben je ne mangerai jamais de viande. C'est pas grave. Ce que je veux, c'est le toucher pour l'emmener à la parole du Seigneur. Donc s'il faut faire une concession sur la viande, pas de souci, je ferai la concession. S'il fallait circoncire Timothée, on a circoncis Timothée. Si Jésus devait payer les deux dragues, bah, il a payé les deux dragues, et puis voilà. C'était pas une grande histoire. Ça doit nous interpeller. Est-ce qu'on est prêt à faire des concessions pour toucher un cœur pour le Seigneur? Est-ce que parfois on n'est pas des pitbulls, là, on s'accroche à notre morceau de viande, là, et puis on ne veut pas lâcher parce que la parole de Dieu dit ça. Ouais, mais... Tout m'est permis, hein. On est passé par la circoncision pour Timothée. Hein. On aurait pu dire, mais les chrétiens ne se circoncisent pas, c'est idiot. C'est vrai, c'est inutile. Eh Paul, pour ne pas être une occasion de chute dans ce cas-là. Alors on ne sera peut-être pas confronté à la mutation de la chair, mais il y aura peut-être d'autres choses, ou parfois, ça peut être la viande, ça peut être autre chose. Voilà, on fera une concession, pas bloquer quelqu'un. Voilà comment faisait Jésus avec les Juifs, Paul aussi, son modèle. Comment Jésus se comportait-il avec les non-juifs? Paul prend toujours le modèle du Seigneur, hein, donc on va voir comment Jésus se comportait avec ce, ces personnes-là. On va regarder dans l'évangile de Matthieu, comment a fait le Seigneur. Là encore, il y aurait plein d'exemples avec des non-juifs, il y en a beaucoup moins qu'avec les juifs, évidemment. On trouve cette histoire au chapitre 15, versets 21 à 28. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: « Renvoie-la, parce qu'elle crie derrière nous, là. » Il répondit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: « Seigneur, secours-moi. » Il répondit: « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit: « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. C'est un joli passage, hein ? C'est un beau passage. Alors ça peut paraître un peu dur, comme ça, à premier abord, mais on voit que ce passage, en fait, ça permet bien de mettre en avant la foi de cette femme. Cette femme, elle est cananéenne. Elle vient des territoires de Tyr et Sidon. Donc, elle n'est pas partie du peuple de Dieu. Elle n'est pas juive. Donc, entre les juifs et les païens, il n'y avait pas de communion. Hein. Le peuple juif n'avait pas de contact avec eux. Donc, il les voyait comme des êtres pas dignes de partage. Alors, donc, cananéenne, par rapport au peuple juif, il y avait une certaine barrière, quoi. Regardez comment elle apostrophe le Seigneur, verset 22. Regardez comment elle l'interpelle. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Première chose, elle avait bien compris qu'il était le Messie. Comment elle l'appelle ? Tout d'abord, Seigneur. Donc elle se dit, c'est le Messie. Celui dont j'ai tellement entendu parler, a priori, il est là, c'est vraiment le Messie, elle l'appelle Seigneur. Donc elle reconnaît son titre, hein, sa personne. Mais en même temps, elle rajoute « fils de David ». Ça, c'était le peuple juif, les juifs qui étaient appelés des fils de David, non ? Oui, Seigneur était juif, était bien fils de David. C'est un titre qui était pour lui, hein, qui était rattaché aux promesses faites par Dieu au peuple juif. Ça les concernait. Mais elle n'en faisait pas partie. Elle n'était pas juive. C'est pourquoi Jésus ne va pas répondre tout de suite à sa demande. Mais regardez dans la réponse, regardez verset 23. Il y a les disciples qui arrivent en disant, avec instance, renvoie-la, écrit derrière nous là. Elle nous gêne là. On ne peut pas avancer, on ne peut pas évangéliser là, on ne peut pas faire ce qu'on veut là. Regardez au début du verset. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus avec la femme ? Il ne l'a pas rejetée. Hein. Il n'a pas dit un mot. Tout d'abord, il se tait. Il la laisse venir et il ne répond pas dans un premier temps. C'est une manière de prouver sa foi en fait, de voir un peu quelle va être sa réponse. Alors, elle va revenir à la charge. Verset suivant. Verset 25, pardon. Elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi !» Comment elle l'interpelle cette fois ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Seigneur, qu'est-ce qui manque par rapport à la première interpellation ? Fils de David. Vous avez vu qu'elle ne le dit plus, du coup. Elle dit tout simplement « Seigneur ». Okay. Elle a dû se dire, d'accord, je suis cananéenne, je ne suis pas juive, je ne peux pas être en contact avec des juifs, mais si c'est mon Messie, je suis quand même une créature devant son Créateur. Alors elle vient en disant, Seigneur, pas besoin de faire mention du peuple juif ou autre, je suis une créature devant mon Créateur, secours-moi, j'ai besoin de toi. Voilà, une foi qui est manifeste à présent, on voit vraiment l'authenticité de ça. Ce qu'il y a dans son cœur, c'est Seigneur. Elle l'appelle Seigneur, elle reconnaît bien. Il n'y a plus de notion d'identité juive, cananéenne ou autre. On est sorti de tout ça. C'est une créature qui a besoin de son Créateur. Et voilà où elle en est à présent. Alors, qu'est-ce que va répondre Jésus ? Jésus dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Alors là encore, ça peut sembler dur. On peut dire, quand même, là, c'est un peu vache quand même. Petit chien, c'est quand même pas gentil et tout. En fait, c'est pas une parole dure du tout. Hein. C'est un peu comme, vous savez, quand vous avez besoin de vous faire opérer le bistouri du chirurgien. Et il va couper, hein. Mais c'est pas pour blesser, c'est pour guérir. Il va tailler, ça va faire mal, mais le but, c'est pas de faire mal, c'est de guérir. Et là, la parole de Jésus, c'est dans ce but-là. Le mot qui est employé ici, c'est kunarion. C'est du grec. Ça sert à désigner un petit animal, un petit chien. Est-ce qu'un petit chien, c'est mignon? C'est quand même mignon, un petit chien, quoi. Voilà, c'est quand même plutôt sympa. Et c'est le mot qu'il emploie ici. C'est plutôt gentil, quoi, on va dire. C'est pas du tout le verset qui est employé dans d'autres endroits, quand on parle de chien. Par exemple, Matthieu 7, verset 6. Ça sort de la bouche de Jésus encore, mais c'est pas le même terme. À ce moment-là, il va dire « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos pères devant les pourceaux, les cochons, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. » Donc là, il y a un avertissement, il dit « Attention à ces chiens qui vont se retourner contre vous et vont vous déchirer. » Sous-entendu, il y a de l'hostilité dans leur cœur. On n'est pas dans la bienveillance, là, on est dans l'agressivité. Le mot employé ici pour chien, c'est « kuon ». Kunarion, c'est « petit chien ». Kuon, c'est « gros chien ». La métaphore ici, c'est un esprit impur, quelqu'un de, voilà, d'insolent, d'impertinent. Donc le terme qui est employé par Jésus, il est plutôt affectif en fait. Hein. Elle était païenne, et les juifs effectivement considéraient les païens comme des chiens, comme des cuons. Alors Jésus, il va adoucir l'image en disant « kunarion, petit chien », qui est quand même plutôt gentil. Jésus voulait certainement, là encore, dans la réponse de la femme, voir ce qu'elle allait dire. Hein. Déjà, premièrement, il n'a pas rejeté, il n'a juste rien dit. Il a laissé revenir, elle a retiré le fils de David, elle a gardé que le Seigneur. Donc là, elle était créature en face du Créateur. Il va l'éprouver une dernière fois en disant, tu sais que normalement, toi, tu peux pas, hein. T'es pas juif, hein. Petit chien, là. Alors elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lui faire une réponse qui est admirable. Elle dit, c'est vrai. Et regardez sa réponse. « Oui, Seigneur, plus de fils de David. Hein. »« Oui, Seigneur, dit-elle. »« Mais les petits chiens, ils font quoi ? Ils ne mangent pas les miettes qui tombent de la table du maître ?» Elle dit « Moi, c'est vrai, Seigneur. Je suis un petit chien. Hein. Moi, je ne mérite qu'une chose, là. Il y a le maître qui est là. Je ne mérite rien. Je mérite juste d'être à ses pieds et peut-être d'avoir la part de ce qui tombe. Mais je ne suis rien. Moi, je suis une Cananéenne. Je ne suis pas issue du peuple de Dieu. Je n'ai pas de promesse pour moi. Tu es mon Messie, mon Créateur. » Oui, c'est vrai, t'as raison. Je suis un petit chien. Mais est-ce que je peux pas voir un petit peu de ce qui tombe quand même pour ce que les autres vont pas vouloir? Et le Seigneur, sa réponse, verset 28, qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit, femme, ta foi est grande. Voilà, tu m'as témoigné ta foi. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'instant même, sa fille fut guérie. Le Seigneur, juste dans la réponse qu'il avait dans son attitude, c'était juste pour la conduire, à témoigner d'une foi authentique. Et vous avez vu cette femme, 2000 ans plus tard, on parle d'elle en exemple. Le Seigneur l'a béni, hein. Il n'a pas été dur avec elle. Hein. Il aurait pu faire comme les disciples. Hein. Hey, ma mission, c'est pour les juifs. On verra après. Il y a les autres après qui vont y aller vers les païens. Ce sera ton tour, tu reviendras plus tard. Pour l'instant, ma mission, c'est le peuple d'Israël. Pas du tout. Il s'est arrêté, il n'a rien dit et il a eu une attitude pour travailler sa foi. Elle l'a magnifiquement témoigné. Jésus l'a loué et sa fille fut guérie. Donc, comment Jésus se comportait-il avec ceux qui étaient sans la foi? Il ne les a pas rejetés, il les a aimés. Il a témoigné de beaucoup d'amour pour eux, sans les rejeter. C'est vrai que Jésus, il aurait pu dire, hein, « Je viens pour le peuple juif. Hein. » Mais il ne l'a pas rejeté, il n'a pas méprisé cette femme cananéenne, il n'a pas méprisé la femme samaritaine, il n'a pas méprisé le centurion romain. Voilà, toutes ces personnes-là, il ne les a pas rejetées. Au contraire, Jésus les a aimés et il a montré cette attitude avec eux. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, nous ? À faire comme Jésus. Paul faisait comme Jésus et nous dit « Faites comme moi, faites comme Jésus ». Il ne faut pas considérer que si on est chrétien aujourd'hui, on n'est pas des juifs. Hein. Mais si on est des chrétiens, on ne doit pas se dire « Moi, les non-chrétiens, j'y touche même pas. Quoi. Je ne veux même pas savoir. Moi, je reste entre chrétiens. Mes amis, c'est mes chrétiens. Mon entourage, je ne m'entoure que de chrétiens. Je ne veux que des chrétiens. » Alors, le plus simple, il y en a qui ont été à l'extrémité de ça, c'est de dire « Eh bien, les amis, si on veut être tranquille, on va aller dans les monastères. » Et comme ça, on va aller entre nous, on va rester entre nous et on va faire des choses entre nous. On va se consacrer à la parole de Dieu de 5h jusqu'à 12h. Après, on va se faire le repas en commun. L'après-midi, on va cultiver de la vigne, un peu de faire du fromage et tout. Et puis le soir, on reviendra dans la parole de Dieu, on fera une messe tous les soirs, et puis nous, les hommes, on ira dans des monastères, et les femmes iront dans des couvents, et comme ça, on sera entre nous, et on attendra le retour du Seigneur. Est-ce que c'est le plan de Dieu, ça ? Matthieu 28. Qu'est-ce que dit Matthieu 28 ? Les derniers versets, vous les connaissez, probablement. Alors, j'ai pas la référence, c'est les tout derniers versets de Matthieu 28. Merci, Tim, tu les connais bien. Seigneur s'en va au ciel, il laisse un ordre de bataille, il donne des consignes. Et il dit aux apôtres, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, est-ce que le Seigneur nous dit, « Allez-y, je vous envoie dans un monastère ou un couvent, édifiez-vous dans la parole de Dieu, attendez mon retour, priez, je reviens bientôt. » Allez, premier impératif. Allez, premièrement, allez-y. Faites de toutes les nations, faites des disciples, deuxième commandement. Baptisez-les, enseignez-les. Voilà. Voilà ce que le Seigneur dit. Il ne dit pas, enfermez-vous, restez entre vous. Quoi. Et ce n'est pas ce que le Seigneur a fait, ce n'est pas ce que Paul a fait. Et c'est ce que Paul reprochera à Pierre en disant, un petit peu plus tard, il lui dira, « Pierre, pourquoi tu vas pas vers les non-juifs, là ? T'as un souci, tu allais vers les non-juifs, tu mangeais avec eux, et puis, à un moment, t'as des judaïsants qui sont venus, donc tu te coupes, hop là, tu t'es éloigné, t'es resté à table qu'avec des juifs. » Il fera le reproche sévèrement, hein. C'est ce qu'il lui dira aussi, hein. Tu dois aller vers les païens aussi. Parce qu'honnêtement, si on passe pas du temps avec les non-chrétiens, comment on va leur partager la parole de Dieu ? Vous pensez qu'ils vont venir tout seuls ? Vous avez vu combien on est ce matin ? Il y a la pluie, là, je pense qu'il a du frais des sapins, mais... Des non-convertis dans les églises, vous le savez très bien, qu'on soit à Genève, Lausanne, à Nice ou autre, c'est quand même un faible pourcentage et c'est quelques cas par an de personnes qu'on a la joie d'accueillir et qui nous disent « Je ne connais rien à l'évangile, je viens parce que je recherche le Seigneur. Oh, » On ne voit pas souvent. Hein. Donc si on ne va pas vers eux, il ne faut pas penser qu'ils vont venir spontanément ici. Hein. Donc ne les rejetons pas. Soyons comme eux, sans faire comme eux. Et c'est ce que Paul a écrit au verset 21. « Avec ceux qui sont sans la loi, j'ai été comme si j'étais sans la loi, afin de les gagner à Christ. » On a vu ceux qui étaient juifs, ceux qui étaient sous la loi, à présent et sans la loi. Maintenant, comment Jésus se comporte-t-il avec les faibles ? Eh bien, Jésus, il a toujours montré beaucoup de compassion pour ceux qui étaient faibles dans la foi. Dans l'évangile de Luc, notamment, il a fait beaucoup de guérisons pour ceux qui étaient faibles dans la chair aussi, qui étaient malades, on l'a vu avec cette femme cananéenne, avec sa fille, etc. Donc il a eu beaucoup d'exhortations, beaucoup d'aide, beaucoup d'amour, de tendresse pour eux. Et puis il a eu aussi beaucoup de compréhension pour ceux qui étaient faibles dans la foi, ceux qui étaient mal affermis. Et on lui a bien reproché ça. Regardez dans Matthieu chapitre 11, verset 19, ce qui est dit au Seigneur. Le Seigneur, il avait de la tendresse pour eux, donc il allait vers eux, pour ceux qui étaient faibles. Certains étaient des juifs, dans ce passage en était, donc ils étaient quand même peuple de Dieu, ils avaient une connaissance de la parole de Dieu, mais le Seigneur a été vers eux quand même. Et voilà ce qu'on lui a dit. Jésus dit, voilà, le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur. Un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Donc Jésus, il allait vers eux, mais on lui a bien reproché. Jésus s'est assis à table avec eux, il a passé du temps avec eux, il a parlé avec eux, il a été comme eux. Et on lui a dit, c'est un mangeur et un buveur. Voilà ce qu'on lui a reproché. C'est vrai, il a été avec eux, il s'est assis, il a passé du temps, il a parlé avec eux, mais il n'a pas fait comme eux. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il a été avec eux, mais il n'a pas fait comme eux. Jésus, il ne s'est pas enivré. Hein. Il n'a pas été jusque dans tous les excès. Il n'a pas dit les mêmes grossièretés qu'eux. Il n'a pas dit les mêmes blagues salaces qu'eux. Il était avec eux, mais il n'était pas... Enfin, il était avec eux, mais il n'a pas fait comme eux. Regardez dans Hébreux, chapitre 4, verset 15, et c'est un verset que Léo a lu tout à l'heure en introduction, donc je le rajoute ici. Hébreux, chapitre 4, verset 15... Ça parle de Jésus. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. C'est-à-dire quand il était à table avec ces personnes-là, quand il était, les fréquentait, il n'est pas tombé dans le péché comme eux. Hein, il n'a pas, voilà, c'est pas enivré ou autre. Il n'est pas sorti du cadre. Christ est resté pur, saint, irréprochable, sans péché, malgré qu'il ait passé du temps avec eux. Et nous, des fois, c'est vrai, quand on est un peu dans... Voilà, on est conscient, hein, quand on a des collègues de travail, ou à l'école, ou etc., de la famille, parfois, on entend des choses... Ça fait mal aux oreilles, ça pique. Hein. Seigneur, il les a entendues, hein, ces choses qui font mal aux oreilles et qui piquent. Hein. Il les a entendues aussi. Hein. Mais il est resté pur, saint, irréprochable, sans péché. Alors, si lui, le roi des rois, le Seigneur des, Seigneur des seigneurs, il s'est humilié au point de partager sa vie avec eux, c'était dans un but, pourquoi? C'est ce que Paul disait tout à l'heure. C'était pour les gagner pour l'évangile. Le Seigneur a accepté de descendre ici, hein, jusqu'ici, hein, dans notre péché. C'était pour les gagner. Regardez ce que disait Paul dans 1 Corinthiens 9, versets 22-23. 22, on va s'arrêter à juste 22. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Voilà la méthode de Paul. J'ai fait tout ça à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Jésus est descendu du ciel jusque dans notre péché. Il a accepté de se salir, enfin du moins d'être souillé, c'est pas lui qui s'est sali, hein. Mais il a été souillé par le péché qui l'entourait, c'était une sorte de souillure pour lui, mais lui n'a pas péché. Alors voici la méthode appliquée par Paul afin de gagner les âmes au salut. Méthode qu'il a reprise de Jésus-Christ, être comme les non-convertis, vivre comme eux sans toutefois faire comme eux, ne pas être une occasion de chute pour eux, faire parfois quelques concessions s'il y avait besoin. Le but, c'était quoi? Les conduire au salut. Alors, on doit suivre l'exemple de Paul, donc il tenait lui-même de Christ. Si on veut voir le salut des âmes, c'est ce qu'on doit faire aussi. La même méthode. Jésus, voilà, il était au ciel, c'est Dieu lui-même qui descend sur terre. C'est quand même merveilleux, quoi. Et la femme cananéenne, elle l'a vraiment reconnu, elle a dit « Seigneur !» Jésus, il est venu faire quoi? Ben, il est venu boire, manger, passer du temps avec ces personnes-là, etc. Simplement, il est venu leur dire qu'il fallait croire en lui, que lui allait mourir sur la croix pour leur péché à eux. C'est eux qui méritaient de mourir sur la croix, mais c'est lui qui allait porter dans quelques temps après leur péché sur la croix, qui allait mourir pour eux, qui allait ressusciter pour eux, et qui devait accepter cela pour être sauvé et pour gagner l'éternité avec lui. Et quand on lit ce passage de Paul, on pourrait presque l'attribuer à Christ, en fait, si tu veux remettre l'image, Tim. Quand on lit ce passage-là, on va dire que c'est pas Paul qui écrit, on va dire que c'est Jésus. En effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait d'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'étais comme un Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi, bien que n'étant pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme si j'étais sans la loi. Bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi de Christ, évidemment, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'étais comme faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'avoir part à ses bénédictions. Alors, je vais finir avec un aspect pratique. Comment on doit se comporter avec les quatre familles de non-chrétiens qu'on a vues ce matin, comme Paul? On va regarder. Avec les Juifs, déjà, il y en a beaucoup à Nice, des Juifs, et vous allez peut-être en croiser en Suisse aussi. Par expérience, ne vous attaquez pas à leur religion. Si vous commencez à dire, la Bible, vous les Juifs, vous êtes encore dans l'Ancien Testament? Jésus est venu, hein, vous êtes un peu dépassés, vous n'avez pas compris encore? Vraiment. Si vous commencez comme ça, évidemment, ça va mal se passer. Hein. Non, j'ai des collègues juifs, j'ai discuté des fois avec eux. Parlez-leur plutôt de leur foi et de leur religion. Là, vous allez voir, ils vont parler, ils vont vous expliquer. Marie-France, tu le sais. Hein. Des fois, quand on parle avec des juifs, vous leur dites les fêtes juives, comment vous en êtes avec tout ça, et la résurrection pour vous, c'est quoi et tout. Vous allez voir qu'il y aura des débats qui vont être passionnants. Ils vont parler avec beaucoup de zèle. Ça va être très intéressant. Déjà, vous allez apprendre beaucoup de choses. Et puis ensuite, vous aurez l'occasion de partager votre foi. Vous n'êtes pas forcément obligé de leur dire « Non, mais attends. » Vous pouvez simplement leur dire « Ben moi, je suis chrétien, chrétienne, et voilà ce que je pense. » Voilà. Puis après, ça ouvrira le débat et vous allez voir que c'est passionnant. Alors certains vont peut-être se braquer, mais beaucoup écouteront et vous allez voir, vous allez avoir des bons débats ensemble. Avec ceux qui se placent sous une loi quelconque, bah, ne pas être une occasion de chute pour eux. Et aujourd'hui, vous savez, la mode des véganes, tout ça là. Ah, ils sont très agressifs, hein. Ils détruisent les boucheries, enfin, ça finit en justice souvent. Il y a des végétariens peut-être autour de vous, etc. Ne rejetez pas leur invitation. S'ils vous invitent chez eux et vous donnent un plat de brocoli, bon, je n'aime pas les brocolis en général, mais si vous dites « Non, moi je ne peux pas manger un pot de brocoli, il me faut de la viande. Moi je suis chrétien, la Bible dit, il faut que je mange de la viande. Voilà. » Si vous attaquez comme ça, la personne va vous dire « Bon, bah salut, au revoir, j'ai pas de beefsteak pour toi. » Non, au contraire, vous utilisez l'opportunité pour parler de la Bible. Il y a une bonne façon de partager la parole de Dieu. Vous pouvez expliquer au départ le plan de Dieu pour l'homme. Regardez dans Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. T'es végétarien, ok, alors moi je l'ai été aussi, donc facile avant ma conversion, j'aurais des arguments, mais... Heureusement que la personne qui m'a converti m'a pas dit « Oh, t'es végétarien, toi, je t'invite pas chez moi. » Heureusement qu'elle m'a invité chez elle, c'était le papa de mon épouse Ruth. Heureusement qu'ils m'ont invité chez eux à manger, qu'on a eu cette conversation qui m'a permis de me convertir. Vous pouvez partager ce verset, hein, voilà, dans Genèse 2, au tout début, hein, l'éternel Dieu prit l'homme, il le place dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset suivant. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc vous pouvez dire, c'est vrai, tu as raison. Dieu, au départ, le plan de Dieu pour l'homme, c'est d'être végétarien. Il lui dit, tu pourras manger tous les arbres du jardin. Il ne dit pas, tu manges des animaux. Hein. C'est vrai, tu as raison. Mais regarde bien, il y a cet arbre de la connaissance du bien et du mal, et ça, il ne fallait pas en manger. Et là, vous abordez tentation, péché, chute, effectivement, voilà. Il va y avoir ce péché, on est tous pécheurs. Mais ensuite, alors vous pouvez amener le verset qui parle de Jésus, sa descendance écrasera le talon et tout ça, mais vous pouvez aussi l'amener dans Genèse 9, versets 1 à 3, en disant, voilà, le Seigneur, il a dit, ok, je rase cette création qui est remplie de péché à présent, déluge, c'est l'histoire de Noé, et après, qu'est-ce qui se passe ? Une fois que Dieu et sa famille sortent de l'arche, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tous ceux qui se meuvent sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils seront livrés entre vos mains. Tout ce qui meut et tout ce qui a une vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. » Et là, vous pouvez l'amener en disant, le plan de Dieu, c'est pas... Végétarien, ça part d'une bonne intention, c'est quoi ton truc ? C'est que t'as envie d'aimer les animaux, tu veux respecter tout. Mais ton Créateur te dit, tu peux les manger, je les ai faits pour toi aussi maintenant. Donc, est-ce qu'on est plus humaniste que Dieu, quoi ? Vraiment. Donc, vous pouvez amener le débat, mais sans provoquer, ça peut être une piste. Et puis, vous parlez du Seigneur, voilà. Vous l'amenez ensuite. Vous pouvez parler du Seigneur qui a mangé du poisson. Il dit, regarde, le Seigneur Jésus lui-même en a mangé. Et c'est ce qui m'a convaincu, ce qui m'a touché. Après, j'ai mangé du poisson et tout ça, j'étais très content. Je me suis dit, quelle andouille j'ai été. Bon, on est tout jeune, on fait des bêtises, non ? Alors, ceux qui sont sans la loi à présent, bah ça va être la plupart de ceux qu'on va côtoyer. Hein. Ils sont souvent sans religion. Alors eux, si vous avez dit, la Bible dit, bah, on dira, oh, la Bible, sans foi ni loi, sans Dieu ni maître. Mais bah là, il faut faire comme le maître, comme le Seigneur. Hein. Il ne faut pas les rejeter non plus, il faut les aimer. Jésus a de la tendresse, il a de l'attention pour eux, il a passé du temps avec eux. Il faut prendre du temps avec eux. Et puis, il y aura un moment où il faut saisir les bonnes occasions pour parler du Seigneur. Voilà. Ne forcez pas le trait tout de suite. Attendez que la porte s'ouvre. Mais vous êtes là pour leur parler du Seigneur qui est mort pour eux à Golgotha. Ce n'est pas juste, je vais aller voir un match avec eux pour qu'on passe des moments ensemble et puis, ok, je vais être comme eux. Non. Il faut être comme eux, mais le Seigneur, il avait toujours des paroles édifiantes. Hein. Il ne venait pas juste pour manger. C'était sympa, on a passé un bon apéro. Allez, on se revoit au temple. Ah, c'est pas ça. Hein. Le Seigneur... Quand il avait l'opportunité, qui venait pour les enseigner, toujours il partageait la parole de Dieu. Alors, je ne dis pas qu'à chaque fois qu'on a vécu, il faut sortir la Bible et puis faire le pasteur, le prédicateur, mais il y a toujours des occasions d'amener le débat sur quelque chose de beaucoup plus édifiant. Mais surtout, il faut éviter les débats inutiles. Ça, il faut vraiment éviter. Quoi. Si vous commencez à partir dans tout ce qui peut provoquer des divisions, vous allez passer beaucoup de temps, ça ne va servir à rien. Non, vraiment, quand vous partagez quelque chose, ce n'est pas vos convictions. Laissez toujours la parole de Dieu parler. Il n'y a que la parole de Dieu qui va toucher les cœurs. Il n'y a que elle qui peut transformer. Vous pouvez raconter toutes vos plus belles histoires et toutes vos meilleures interprétations. Partagez la parole de Dieu, vous partagez des versets. Dieu, il a laissé ça pour qu'on touche les autres. Hein. C'est ce qui vous a transformé. Si vous êtes sauvé, c'est quoi ? C'est ça, non ? C'est rien d'autre. Hein. C'est la parole de Dieu qui vous a touché. Un verset, une histoire, le Seigneur qui vous dit et vous obéissez à un moment. Donc faites bien ça. vos plus belles histoires, vos plus belles interprétations, ça va partir dans des débats stériles. La parole de Dieu, on ne peut pas la réfuter, quoi. Et avec les faibles, alors on a vu les juifs, ceux qui se placent sous une loi quelconque, ceux qui sont sans loi. Et avec les faibles, bah maintenant Jésus pareil, hein. Compassion, compréhension, en un mot de l'amour, Jésus les a aimés. Hein. La femme cananéenne, il ne l'a pas rejetée, on a vu plus haut. Et ben on doit aimer comme le Seigneur, quoi. Alors ça va peut-être demander de la patience, parfois quelques sacrifices, effectivement. Mais c'est à quoi le Seigneur nous appelle, donc soyons patients, ayons de l'amour. Tu l'as dit tout à l'heure, Léo, aimez-vous les uns les autres, ce commandement nouveau. Le Seigneur avait laissé 10 commandements. Ah, dans sa bouche, sort le mot commandement en disant « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. » Voilà. Donc, c'est valable aussi avec les autres. C'est pas seulement entre nous, quoi. J'aimerais conclure avec un dernier verset qu'on trouve dans Colossiens chapitre 3, versets 23-24. Le Seigneur nous a dit, allez, faites des disciples, enseignez-les à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et la parole aussi dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Sachant que ce que vous recevrez du Seigneur, l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Voilà, ne dis pas, tout ce que vous le faites pour... convertir les personnes pour qu'on dise oh, lui il est bien, il touche les... qu'est-ce qu'il est zélé pour le Seigneur, qu'est-ce qu'il touche hein, quand même, vous avez vu le nombre de personnes qu'il a évangélisé, non, tout ce que vous faites le bon cœur comme pour le Seigneur, c'est pas pour vous que vous le faites, c'est pour Dieu, voilà, sachant qu'il y aura d'héritage pour récompense, vous inquiétez pas pour ça, mais servez Christ le Seigneur comme Paul l'a fait, en toute humilité et seulement pour les autres et pas pour vous-même, quoi. C'est bien ce que nous dit la Bible ici. On va prier pour conclure. Seigneur, voilà une méthode pratique que nous a laissé Paul ce matin aux Corinthiens. Avec les Juifs, faites comme les Juifs pour les toucher pour toi, pour l'Évangile. Avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, bah, être comme eux afin de les gagner pour toi. Ceux qui sont sans la loi, être comme eux aussi pour les gagner à toi. Et puis pour ceux qui sont faibles, même chose. Pour les gagner pour le royaume, pour toi Seigneur. Qu'être public, une façon de faire, être comme eux et pas faire comme eux. Un seul but, les gagner pour toi Seigneur, pas pour nous. Pas pour qu'on voit une église remplie, pas pour qu'on se dise « Ah super, on a des personnes qui vont se baptiser, tout ça, c'est l'objectif, c'est de les gagner pour toi Seigneur. » Et notre finalité c'est toi, parce que nous t'avons reconnu comme notre maître, comme notre Seigneur. Nous avons fait comme cette femme cananéenne Seigneur, nous étions comme elle. Et nous sommes venus à toi pour entrer dans ton peuple, Seigneur, et pour que tu nous guérisses aussi. Seigneur, merci, parce que tu l'as fait par amour, tu ne nous as pas rejetés. Tu nous as accueillis, Seigneur, dans ton peuple. Et tu nous as préparé un endroit au ciel, Seigneur, avec toi, une belle place. Ce que nous avons rappelé par la scène tout à l'heure. Nous attendons ce moment, Seigneur, mais en attendant, tu nous as dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, de tout garder. Mais tu as aussi promis que tu étais avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, c'est notre mission à présent, tu nous l'as rappelé. Merci pour Paul qui l'a redit aux Corinthiens, qui était un rappel pour nous aussi aujourd'hui. Je prie aussi pour ceux qui sont encore comme la femme cananéenne, qui sont encore loin de toi, Seigneur, qui ne sont pas encore dans ton peuple. Ils n'avaient pas encore compris peut-être jusqu'à présent cette portée. Ils voudraient bien manger des petites miettes, Seigneur. Les Juifs, à l'époque, ont rejeté le pain du ciel. Elle a dit qu'elle voulait bien des miettes de pain qui restaient. Seigneur, que nous soyons tous comme elle, Seigneur. Et je demandais si peut-être quelqu'un dans la salle ce matin voudrait de cette petite miette de pain. Il s'est dit, je ne suis pas encore au Seigneur, mais j'ai compris que Christ m'aime, qu'il a de la tendresse pour moi, qu'il est venu pour moi pour mourir à ma place. Et qu'à présent, il me donne une place au ciel. Si je l'accepte dans mon cœur, je veux qu'il vienne dans mon cœur. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un ce matin parmi vous? C'est votre cas, je vous invite à lever la main, on priera ensemble. Nos messages sont enregistrés, ce sera sur le site web après. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui écoute en ce moment ce message, qui veut donner son cœur à Jésus. Dans ce cas, il faut juste faire une simple prière pour dire « Seigneur, j'ai compris simplement que je ne suis rien. Je suis comme cette femme, Seigneur, mais je veux bien des petites miettes qui tombent. Et le Seigneur va vous les donner. Il va vous donner plus que des miettes. Il va tout vous donner après. Seigneur, je veux te donner mon cœur et vivre pour toi à présent. Je veux renoncer à ma vie passée. Je ne veux plus être sous la loi, sans loi ou même sous une autre loi. Je veux être dans ta grâce à présent. Faites-le. Alors ne laissez pas le Seigneur revenir et vous laisser là. Seigneur, oui, touche les cœurs encore. Et aide-nous, Seigneur. Tu as dit que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que ce soit toi qui parles, que ce soit ta parole qui touche les cœurs. Nous t'en prions, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.